Faisons quelques lectures, s'il vous plaît. Il y aura ce matin pas mal de lectures. Je vous conseille d'en noter certaines, parce que l'occasion va se présenter bientôt où vous devrez les lire à des personnes. Vous entendez? Notez-les, surlignez-les, parce que ça va se présenter souvent. Dans 1 Jean, il y aura pas mal de lectures bibliques ce matin, mais ce n'est pas plus mal. 1 Jean chapitre 4, verset 6. On va lire le verset 5. La prédication de ce matin se résume par une question. Vous allez la comprendre. L'homosexualité est-elle un péché, oui ou non? Voilà, Michael, vous avez le titre. Non, mais je vais quand même vous dire certaines choses qui sont en train d'être banalisées et je peux vous dire que nos enfants ont besoin d'être enseignés, croyez-moi. Et si c'est écrit dans la parole de Dieu, c'est qu'il faut l'enseigner. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que parfois on me dit, oui, mais est-ce que c'est nécessaire? Écoutez, si c'est dans la parole de Dieu, c'est qu'il faut l'enseigner. On ne va pas enseigner des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Là, ça serait exagéré. Mais à partir du moment où on enseigne la parole de Dieu, Dieu veut que nous l'enseignions. 1 Jean chapitre 4, verset 5. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Vous entendez? Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Un petit peu avant, dans Timothée au chapitre 4, 2 Timothée chapitre 4, verset 3. Verset 3 et 4. 2 Timothée chapitre 4, verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Romains chapitre 1, verset 18. Nous allons faire une longue lecture, mais je pense qu'elle est nécessaire. S'il vous plaît, soyez patients, lisez avec moi cette longue lecture. Romains, chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Ça, vous avez remarqué que ça dégénère, ça va du plus haut au plus bas. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant, homme avec homme, des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvés pour commettre des choses indignes. étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore, ils approuvent ceux qui les font. Ô homme, qui que tu sois, je le relis, ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses, et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Retenez bien cette expression, rebelles à la vérité et ils obéissent à l'injustice. C'est quand même pas mal, hein ? Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens, qui n'ont pas la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Amen. Ça aurait été écrit il y a 3 jours, on aurait dit, c'est vraiment, vraiment d'actualité. Vous avez vu que 7 pays en Europe sont en train de légaliser l'homosexualité. C'est pas mal, hein ? En Amérique aussi. Mais tout ça, vous avez compris dans quel but c'est fait. Je ne veux pas rentrer dans un débat parce que premièrement, il n'y a pas besoin de débat avec la vérité. C'est déjà un signe alarmant quand dans les églises et dans les dénominations, on est prêt à faire un débat pour savoir si oui ou non il faut accepter l'homosexualité. Déjà là, c'est inquiétant de devoir envisager de faire un débat. Moi, je vais vous dire, il n'y a pas besoin de débat. Il y a tout simplement besoin d'une prise de position. Il n'y a pas besoin de diplomatie. Je crois qu'il y a tout simplement besoin de quelque chose. Il y a besoin de courage pour dire la vérité. Voilà ce que Dieu veut, que nous ayons du courage. Et nous n'avons pas accepté ce que le monde veut nous imposer. Compte tenu de ce qui s'est passé là ces temps-ci, de leur nouvelle orientation, j'ai voulu voir certaines choses sur Internet. Et j'ai fait ce que je vous conseille de faire si vous voulez vous arracher des cheveux. J'ai tapé chrétienne, église chrétienne, homosexuelle, pasteur homosexuel, et vous allez voir ce que vous allez voir. Et quand Paul dit qu'ils sont ingénieux au mal, laissez-moi vous dire qu'il y a du génie pour le mal. Et que quelqu'un qui ne lira pas la parole de Dieu sera obligatoirement berné et confus. C'est impossible. Écoutez, je pense avoir un minimum de bon sens. Mais quelqu'un aujourd'hui qui chercherait Dieu, qui n'aura pas le réflexe d'être de suite aiguillé par la vérité de la parole de Dieu, il y a 9 chances sur 10 qu'il se fasse avoir. Tellement c'est bien fait, tellement c'est présenté, mais faut voir, allez-y. Je pourrais vous donner quelques témoignages, je vous assure, c'est pas édifiant. Mais ça vous montre que les ruses du diable sont vicieuses, croyez-moi, et puissantes pour troubler les gens. Non, nous n'avons pas accepté ce que le monde veut nous imposer. Ce n'est pas au monde à dicter ce qui doit se passer dans l'Église. Amen. Car c'est ce qui est en train d'être dit. Laissez-moi vous le dire. Allez-y, écoutez. Vous comprendrez mieux ma prédication si vous prenez une heure ce soir. Hier, je vous dis, j'en ai même oublié une visite. Heureusement que j'avais dit à ma fille, je dois partir faire une visite à l'église. Heureusement, parce que c'est rare que j'oublie une visite. Ça m'est déjà arrivé quand même. Mais franchement, j'étais tellement peiné de voir ce que les pasteurs écrivent, ce que les églises écrivent. Au nom de la tolérance. Écoutez, Ne tombons pas dans ce débat stupide de la tolérance ou de l'intolérance. Nous, on est des chrétiens, on veut entendre la vérité. Bien sûr que nous tolérons les pécheurs et que nous aimons les pécheurs. Ne tombons pas dans cette ritournelle pénible. Oui, mais Dieu aime le pécheur et il n'aime pas le péché et Dieu aime quand même les gens. Alors on finit par tout avaler. Je crois que ce qu'il faut faire, c'est lire la parole de Dieu. Voilà, c'est tout. Que Dieu défendra la vérité. Ce ne sont pas les païens qui doivent nous influencer. Parce que je peux vous dire que c'est ce qui est en train de se passer dans les églises. Ce sont ce que les païens proclament haut et fort qui est en train d'influencer les chrétiens. Je regrette, si vous faites partie de ces chrétiens qui est influencés par ce que le monde dicte, laissez-moi vous dire que vous êtes de piètres chrétiens. Parce que je crois que c'est les chrétiens, eux, qui doivent être la lumière du monde. Mes frères et sœurs, nous devons être absolument sérieux. Et je sais que ce n'est pas pour les chrétiens d'ici que cette prédication est adressée. Mis à part le fait que les parents, vous devez quand même enseigner vos enfants. Parce que dans les écoles, croyez-moi, ils ont quelques trains d'avance sur l'église. Croyez-moi, dans les écoles, ils ont commencé à enseigner ces choses d'une manière très 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 fine et très subtile. Ma fille, elle est professeure, et elle me dit qu'il y a des programmes qui commencent à circuler dans les écoles, dans les maternelles, pour que les enfants acceptent l'idée de l'homosexualité. Non, ce ne sont pas les païens qui doivent influencer l'Église. Les chrétiens, ils sont bouleversés par la vérité de la parole de Dieu. Mais allez le voir, je vous assure, ce n'est pas édifiant. Mais ça vaut quand même la peine d'être lu. Vous avez des sites en pagaille, n'y passez pas des heures, mais juste pour avoir une idée de ce que certaines dénominations sont en train d'imposer. Croyez-moi, c'est grave. Hein. C'est grave, quoi. Parce qu'ils vont prendre des textes, par exemple, on va lire un texte, dans 1 Corinthiens au chapitre 6. Ce texte-là, il le présente au nom de la pédophilie, que Dieu est contre la pédophilie, mais pas contre l'homosexualité. Regardez, pourtant, ça ne peut pas être clair, plus clair. Ceux qui prennent la Bible, parce que normalement, dans tous les sites, vous allez voir, il n'y a aucune allusion à la Bible. Il y a tout un tas de trucs sur la tolérance, l'amour, etc. Mais il n'y a pas de versets bibliques qui sont cités. C'est ça le drame. 1 Corinthiens 6, verset 9. Mais, mes frères et sœurs, on l'a lu tout à l'heure, celui qui est de Dieu, il nous écoute. Il écoute la parole. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Voyez ? Et ils sont capables de prendre un texte comme ça pour dire que non. Ça ne concerne pas les homosexuels, ça concerne tout ce qui est au niveau de la pédophilie. En parlant de pédophilie, laissez-moi vous dire que bientôt, on acceptera la zoophilie. On va le dire. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Maudit soit les chrétiens. Malheur aux chrétiens qui vont gober toutes ces choses. Et mes frères et sœurs, si les pasteurs, nous n'enseignons pas ces choses, nous rendrons compte à Dieu. Je le sais, et moi ça ne me porte pas peine de le dire, c'est une question d'intégrité devant Dieu, je n'ai même pas besoin de courage, je me doute les mails, la quantité de mails que je vais recevoir, ça je sais. La question que je me pose, est-ce qu'il faudra que je réponde ou pas? Mais je sais que ce n'est pas vous qui allez être contre, sinon vous ne seriez pas dans cette assemblée. Mais mes frères et sœurs, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui. Ça c'est sûr. Alors, Regardons ce que dit la parole de Dieu. Regardons tout simplement. Lévitique 18. C'est pour ça que je vous demande de les lire. Dernièrement, j'ai rencontré un homosexuel qui m'a fait beaucoup de raisonnements. J'ai dit, écoutez, moi, je vais vous dire ce que Dieu dit. Et puis, il est reparti. Je n'ai pas cherché à le je ne l'ai pas jugé. Je ne l'ai pas condamné. Je dis ce que Dieu dit. Parce que je crois que c'est ça, l'amour de la vérité. Et je prie pour que Dieu sauve cet homme et l'amène à la repentance. C'est pas, quand on parle de condamnation, on ne parle pas de jugement sur la personne. On condamne certaines choses parce que Dieu les condamne. Voilà, c'est quand même, je veux dire, c'est pas, il n'y a pas besoin d'avoir fait 3 ans d'école biblique pour comprendre ça, je vous le dis. Lévitique 18, 22. Lévitique 18, 22. Jusqu'au verset 25. Regardez bien, ce sont des textes que vous pouvez citer. Ne les justifiez pas. Quand quelqu'un vous dit, mais moi, oui, je crois que Dieu ci, que Dieu là, lisez avec moi, Lévitique 18, 22. Tu ne coucheras pas avec un homme comme un couche avec une femme. C'est une abomination. Tu ne coucheras pas avec une bête pour te souiller avec elle. Et croyez-moi, vous allez voir si on ne va pas y venir à ces choses-là. Moi, j'ai vu une publicité dernièrement, ça prépare ça. Vous allez dire, monsieur Gouy, ça y est, il est ravagé. Écoutez-moi bien, écoutez-moi, dans quelques années d'ici, tout ça, ça sera joyeusement accepté. Vous le verrez. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle, c'est une abomination. Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays en a été souillé, je punirai son iniquité et le pays rejettera ses habitants. Et si on a le temps tout à l'heure, vous allez voir que dans toutes les dispensations, que ce soit du temps des patriarches, que ce soit du début à la fin, du temps des rois, du temps des juges, du temps de la loi, ça a été le même avis pour Dieu. Dieu n'a pas changé d'avis comme certains veulent nous le faire croire. Lévitique 20, verset 13. Si un homme couche avec un homme, comme un couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. N'oubliez pas qu'à cette époque, Israël était une théocratie. C'est Dieu qui commandait et là, la peine de mort pouvait être réalisée. Aujourd'hui, gardons-nous de prononcer des choses qui n'ont plus rien à voir avec un pays théocratique. Vous comprenez ce que je veux dire ? Théocratique. Qu'est-ce que j'ai dit ? Pardon. Oui, justement, le royaume de Dieu, ce n'est pas une démocratie. Et c'est ce qu'on veut. Et c'est ce qu'on voudrait. Alors, je ne vais pas rentrer là-dedans. Non. Vous avez vu ? Si un homme couche avec un homme comme un couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. On a lu en Corinthiens 6, 19. Il y a d'autres textes, on peut lire, même du temps des rois. C'est bien que voir que ce n'était pas que du temps des patriarches. Regardez dans 1 Roi, chapitre 14. Parce qu'il y a des gens, oui, c'était au début. Oui, c'était au début. C'est du début à la fin, si vous lisez la Bible. Un roi 14, donc du temps des rois, si j'ai... Ah mais il faut voir, si vous lisez minutieusement, vous n'allez pas en revenir, je peux vous le dire. Un roi 14, 24. Ça explique ce qui se passait. Là, on n'est plus dans les patriarches, on est du temps des rois. Un roi 14, 24. Il eut même des prostituées. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de « e », c'est « e », ce sont des hommes. Il y a les prostituées « e-e-s ». Il faut bien faire la différence quand il y a un « e » ou un « e-e-s ». Et là aussi, je ne sais pas si vous l'aviez déjà fait attention. Il y eut même des prostituées dans le pays. Ils imitèrent toutes les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Chapitre 15, verset 11. « Asa fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme David son père. Il ôta du pays les prostituées. » Là aussi, c'est des hommes. « Et il fit disparaître toutes les idoles que ses pères avait faite. » Un roi 22, on peut lire. Il y en a des textes, un roi 22, mais ça suffira pour aider les gens, parce que notre but, c'est d'aider les gens. Ce n'est pas de condamner. Un roi 22, verset 47. « Il ôta du pays le reste des prostituées qui s'y trouvaient encore depuis le temps d'Asa, son père. J'ai lu que le péché de Sodome et Gomorre, c'était pas l'homosexualité. Non. C'était, tenez-vous bien, je souris, ça m'énerve. C'était le manque d'hospitalité. Que Sodome et Gomorre. Non mais, il faut rien pleurer normalement. Mais tellement c'est ridicule, c'était le manque d'hospitalité qui fait que Sodome et Gomorre ont été jugés par Dieu. Voilà. Mais que l'homosexualité, donc, n'est pas un péché. Et je peux vous dire que ce qui s'est passé du temps de Sodome et Gomorre, c'est ce qui se passera pour attirer l'enlèvement de l'Église. De toute façon, pour nous, à la limite, ne soyons pas égoïstes. Mais je peux vous dire que ça ne fait qu'accélérer le retour de Jésus-Christ, que vous le vouliez ou non, de toute façon. C'est une évidence. Alors il faudrait qu'il y ait un réveil, un véritable réveil, pour retarder ces choses. Mais il y a ces choses qui sont accélérées. Et heureusement que Dieu hâtera ces choses. Parce que si le Seigneur ne hâtait pas certaines de ces choses, il serait possible que même les élus se perdent. Alors voyez. Alors, bon, on ne va pas prendre les textes dans la Genèse sur le péché de Sodome et de Gomorre, mais regardez peut-être dans Jude. On n'aura pas le temps de voir tous les textes. Vous pourrez me le demander si vous voulez. Jude. Regardez avec moi dans Jude. Il revient sur le péché de Sodome. C'est pour vous dire que ce n'était pas du temps des patriarches, c'est tout le temps, dans toute l'histoire du monde, que l'homosexualité, Dieu la condamne. J'utilise le mot pour être vraiment juste. Il y a des choses que Dieu condamne. Ce n'est pas pour ça que Dieu veut que ces gens aillent en enfer, mais l'homosexualité, Dieu la condamne. Il faut être clair, franchement. Jude, verset 7. On peut lire verset 5. « Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour. » Vous y croyez ça, au jugement du grand jour? Vous croyez que le Dieu d'amour et de miséricorde est aussi le juste juge? Bon. « Enchaîné éternellement, par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorre et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. » Rien que ces textes, si vous lisez Jude, vous allez voir qu'il y en a des allusions à l'enfer et au jugement dernier. Voyez. C'est donné un exemple. On n'est pas loin là, dans Pierre, 2 Pierre chapitre 2. Regardez, un petit peu avant. 2 Pierre chapitre 2, il revient là-dessus, du temps de Noé, parce qu'il y a beaucoup d'allusions dans les prophéties que ce qui s'est passé du temps de Noé se passera pareil. Que ce qui se passe du temps de Sodome, ça sera exactement la même chose. Prenons le temps de le lire. 2 Pierre chapitre 2, verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir, s'il a délivré Lot le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein, et dans leur dérèglement, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est donc délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. » On pourrait voir tous les textes. Il y a un texte encore dans Luc, Ésaïe au chapitre 3 du verset 9 à 11. Notez-le, vous le lirez chez vous. Dans Luc 17, c'est une prophétie. C'est quelque chose qui va arriver. Ésaïe 3, verset 9. Regardez avec moi dans Luc 17. Je vous donne beaucoup de textes parce que je pense que c'est bien que vous relisiez ces textes et que vous les donniez quand vous rencontrerez des gens qui sont dans cette situation, que vous puissiez le leur lire avec beaucoup d'affection, bien sûr. Luc 17, 28. Voilà, s'il vous plaît, Madame Chapeau. Vous me demanderez les textes après. D'accord? Si tout le monde fait comme vous, on ne s'en sort plus. Luc chapitre 17. Verset 28. C'est une prophétie. C'est ce qui arrivera. C'est ce qui est en train d'arriver. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos nations. Et je peux vous dire que les mois à venir vont accélérer la réalisation de cette prophétie. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. C'est quoi pour vous ça? C'est une prophétie? C'est une prophétie. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. C'est ce qui se passe aujourd'hui, malgré la crise, on en est là-dedans. Les hommes mangent, c'est pour ça que ce n'est qu'après l'enlèvement de l'Église qu'il y aura l'implantation de la puce sur la main droite ou sur le front. C'est après. Jusqu'à l'enlèvement, on pourra acheter comme on le fait aujourd'hui. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit périr tous. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Il en sera de même. Ce sont des prophéties. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, vous pouvez dire, c'est en train de se réaliser. Alors, quand on en arrive, mes frères et sœurs, quand même, dans les églises, je parle de beaucoup de dénominations confondues, quand on arrive à refuser que l'homosexualité soit un péché, je pense qu'on est loin de Dieu. On est très loin de Dieu. C'est vrai que dans Ésaïe, je vous lis un texte, Ésaïe 5, 20, je vous le lis. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Non seulement ils changent les ténèbres en lumière, mais ils changent la lumière en ténèbres. Ils arrivent à nous faire dire que ce qui est bien est vraiment mauvais. Que des gens essaient de nous faire croire que ce qui est mauvais est bon, c'est déjà pas bien. Mais qu'en plus, qu'on arrive à nous dissuader que ce qui est bien est ténébreux, laissez-moi vous dire qu'ils en sont vraiment arrivés à ce stade où ils sont ingénieux au mal. Et pourquoi tant de gens goberont? Parce que c'est présenté avec une telle intelligence. C'est tellement bien dit. Mais moi, je me suis posé la question hier, si tu n'étais pas... Même si tu avais été catholique comme avant, que tu lisais pas ta Bible, est-ce que tu n'aurais pas pu te laisser piéger? Il y a un dimanche où je ne suis pas venu, il y a 2 ou 3 mois, j'avais des calculs, et un dimanche je suis resté à la maison. Et à 11h30, j'ai voulu mettre du bois dans la cheminée, parce que je savais qu'Isabelle allait arriver, et je voulais que la maison soit bien chaude. Et quand j'ai allumé la cheminée, je me suis dit, tiens, tu vas regarder, vous savez, les émissions religieuses le dimanche matin. Je ne sais pas si j'ai bien fait. Et je suis tombé sur une association qui accueille les homosexuels. Alors je me suis dit, c'est bien, après tout. Est-ce que c'est bien de les accueillir pour les aider à s'en sortir? Mais attendez, pour s'en sortir, ce n'était pas se sortir de l'homosexualité. C'est se sortir de la culpabilité de l'homosexualité. Et on interviewait un homme religieux et là, vraiment très sérieusement, il dit, voilà, mais alors donc, vous aidez les homosexuels? Oui, on les aide. On les aide à accepter leur homosexualité. Et derrière ça, il y avait un docteur chrétien qui était ému, il dit, voilà, moi je suis bouleversé quand je vois ça. Vous savez, il s'aiment. Je refais à peu près comme il faisait, je le fais avec beaucoup de sérieux. Il s'aime, l'amour vient de Dieu. Oui, ils étaient comme ça. Si l'amour vient de Dieu, comment voulez-vous que ces choses ne soient pas acceptées? Moi, j'étais furieux. J'étais là, je me disais, mon Dieu, nos enfants, si on ne les prévient pas, nos petits-enfants, vous en avez des enfants? Ou des petits-enfants? Il faut qu'ils entendent ces choses. Il faut que les gens entendent ces choses-là. Mais c'est du génie. C'est pas la grosse peau de banane que vous allez éviter. C'est presque impossible à discerner, tellement c'est bien fait. Malheur à ces hommes qui changeront le mal en bien et le bien en mal. Malheur à eux. Voilà. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. C'est écrit, je vous cite la parole. Alors comment doivent réagir les chrétiens? Parce que ce qui nous préoccupe à nous, ce n'est pas d'être convaincus de savoir si l'homosexualité est oui ou non un péché. Si vous ne pensez pas que c'est comme ça, c'est que vous n'êtes pas converti. Moi je vous le dis très sérieusement, ce n'est pas pour vous faire perdre du temps. Justement, je ne veux pas que vous en perdiez. Si vous acceptez l'homosexualité comme quelque chose que Dieu approuve, vous n'êtes pas converti. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Celui qui est de Dieu nous écoute. Alors les chrétiens, bien sûr qu'ils doivent, et je me suis posé la question avant de préparer cette prédication hier, je me suis dit, mais quelle doit être notre réaction? La parole de Dieu quand même nous demande de nous positionner, nous sommes des chrétiens, vous comprenez? Et je crois qu'il faut avoir une position, comme d'habitude, équilibrée. Je crois que c'est important quand on est chrétien d'être équilibré. Et il doit y avoir 2 choses, la désapprobation et la compassion. Je pense, mes frères et sœurs, que ne tombons pas dans le jugement. Le jugement, ce n'est pas à nous de prononcer le jugement. À moi la vengeance, à moi la rétribution, a dit le Seigneur. Nous, on n'est pas habilité pour juger. On peut condamner dans le sens de désapprouver. Vous comprenez ce que je veux dire? Dans le sens que c'est une condamnation de Dieu. Et Dieu ne changera pas d'avis, croyez-moi, parce que le monde, eh bien, aimerait que Dieu change d'avis. Tout ça, c'est la preuve que les gens ne connaissent pas la parole de Dieu. Les gens me le disent parfois, mais monsieur Gou, vous ne croyez pas que Dieu pourrait changer d'avis? Mais dis non. Mais si, moi je suis sûr que Dieu est plein d'amour, que Dieu peut changer d'avis. Monsieur Gou, je suis sûr que je peux me marier avec un inconverti, que Dieu il va être d'accord. Je dis, allez, mariez-vous. Qu'est-ce que vous voulez dire aux gens? Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Voulez-vous marier avec un inconverti? Eh bien, mariez-vous avec un inconverti. Mariez-vous. Si vous voulez faire une erreur, faites-la. Voilà, et ne dites pas que Dieu était d'accord. Au moins, taisez-vous. Je pense qu'il doit y avoir cette honnêteté devant Dieu. On est devant Dieu, là, ce matin. On a le souci d'être à l'écoute. On n'est pas là, je répète, pour prononcer un jugement. On est là pour dire, oui, nous désapprouvons. Mais nous voulons avoir de la compassion. Parce que Dieu veut les sauver. Et ces deux attitudes sont sérieuses. Voilà, il faut être équilibré. On a besoin de réponses claires. Elles sont là, dans la parole de Dieu. Je vous le dis, à l'époque des patriarches, on le voit, à l'époque des rois, à l'époque des prophètes. Et dans le Nouveau Testament, on a lu un texte suffisamment clair pour voir que Dieu désapprouve. Alors pourquoi Dieu condamne-t-il l'homosexualité? Eh bien parce que ça détruit la famille. Ça détruit ce que Dieu a institué. Et quand on détruit ce que Dieu a institué, je peux vous dire que c'est vraiment grave. Tout est fait pour détruire la famille. Dieu a créé l'homme et la femme. Et pour faire un mariage, il faut un homme et une femme. Mes frères et sœurs, quand on accepte l'homosexualité, on détruit le plan de Dieu. Ce n'est pas plus compliqué, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais je pense que ça suffit. Ça détruit la famille. Vous me dire, mais non, il y a des couples homosexuels, ils ont beaucoup plus de pédagogie, il y a certains couples, si tu savais que la femme, elle était une mauvaise mère, et le père, il y a des homosexuels, ils sont super, super chouettes. Écoutez, vous direz ce que vous voudrez. Vous direz ce que vous... Et je ne veux pas débattre. Ne venez pas m'apostropher, ne me demandez pas une visite pour ça, s'il vous plaît. Je ne veux pas débattre. Je vous dis que quand on accepte l'homosexualité, on travaille à détruire le plan de Dieu. Croyez-moi, ce n'est pas plus compliqué. Et Jésus l'a dit. Et ce jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde et que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Jean 3, 19 à 20. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Et voilà, celui qui aime le péché, bien sûr, il va aimer ces choses. Il y a des gens, Jésus a été d'une honnêteté, vous savez, la Bible est d'une honnêteté extraordinaire. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Je pense que si nous sommes ici ce matin dans la maison du Seigneur, c'est parce que nous préférons la lumière aux ténèbres. Nous voulons la lumière. La lumière, c'est vrai que dès que vous ouvrez, et plus il y a de la lumière, ça révèle les tâches. Eh bien, merci Seigneur. Révèle-moi, Seigneur, ta lumière de plus en plus. Et au nom de l'amour et de la compassion, nous ne devons pas compromettre ce que Dieu dit au sujet de l'homosexualité. Car c'est vrai, ça serait très, très, très déséquilibré de ne présenter cette chose-là que dans la condamnation. Je crois qu'il faut désapprouver l'homosexualité et qu'il faut que nous nous appliquions à avoir de la compassion. Nous avons bien de la compassion pour nous occuper des filles de la rue. Dieu désapprouve la prostitution, condamne la prostitution, mais Dieu aime les âmes, toutes les âmes, perdues. Et Dieu veut les sauver. Mais le verdict, il est clair. Les impudiques, les efféminés, les adultères n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et prétendre autre chose, c'est compromettre la vérité de Dieu. Et vous aurez du mal quand vous passerez devant Dieu, au nom de l'amour, de la compassion, de la tendresse, de la miséricorde, de la patience de Dieu, tout ce que vous voudrez, vous allez avoir beaucoup de mal à vous expliquer. Je veux vous dire que toute bouche sera fermée. Il n'y aura pas besoin d'explication. Parce qu'en même temps, c'est tromper les gens. Si on les approuve, on les trompe. C'est un autre évangile. De façon, qu'est-ce qu'il a dit Paul aux Galates? Si un ange du ciel venait nous annoncer un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit. C'est un autre évangile qu'on est en train d'accepter dans beaucoup de dénominations. Et moi, je ne juge pas. Je condamne dans le sens où je désapprouve, parce que c'est ce que Dieu veut que nous fassions. C'est important de le comprendre. Si nous désapprouvons, nous pouvons justement amener ces gens à prendre conscience de leur péché. Parce qu'on ne condamne pas l'homosexualité pour que les gens soient perdus et aillent en enfer. On condamne l'homosexualité pour que les gens puissent comprendre qu'ils ont besoin d'être convaincus de péché. Est-ce que vous comprenez? Sinon, on ne fait que tromper les gens. Oui, nous ne voulons pas que les gens aillent en enfer. Est-ce que vous voulez que les homosexuels de Toulouse, deuxième ville ou première ville homosexuelle de France, soient sauvés? Mais bien sûr, on veut qu'ils soient sauvés, c'est important. On ne va pas les vouer à l'enfer, que personne ne dise « je maudis les homosexuels », que j'entende pas ça. Vous comprenez, mes frères et sœurs, qu'on n'entende pas quelqu'un dire « qu'ils aillent tous à l'enfer, c'est ce qui les attend ». Non, nous condamnons l'homosexualité, mais nous voulons que Dieu sauve les homosexuels. Seigneur, donne-nous de la compassion. On ne prie pas pour les persécuteurs. Je vous entends le mardi soir, le dimanche matin, vous priez, tu vois, Seigneur, tous les soldats tars, ceux qui persécutent l'Église dans la province d'Orissa, ceux qui persécutent, eh bien, on les aime, quand on prie pour eux, on les aime. Soldats tars, Dieu l'a sauvé, moi je trouve qu'il en a fait un chrétien, pas mal. Mes frères et sœurs, est-ce que ça vaut la peine de prier pour les persécuteurs? Oui, on n'aime pas ce qu'ils font, ils persécutent les chrétiens, ils tuent les chrétiens. Mais Dieu veut les sauver. Et quand je parle de condamnation, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On désapprouve parce que Dieu désapprouve. Et le seul moyen de les voir être sauvés, eh bien, c'est de leur dire la vérité. Et ceux qui aiment les ténèbres, eh bien, ils continueront à aimer les ténèbres. Mais ceux qui voudraient découvrir la grâce de Dieu, eh bien, on ne les trompera pas. On pourra vraiment les aider. Parce qu'on entend de tout. Vous allez voir sur le site. Vous allez voir. Est-ce que c'est une maladie? Non mais voilà. Je suis né comme ça. C'est un problème psychologique. Moi, je vais vous dire. Je pense pas que les... Alors, je pense que je vais pas bien le dire tout à fait. Je ne pense pas que les homosexuels ont besoin de guérison. Attends, laissez-moi finir. Je ne pense pas que les homosexuels ont besoin de psychothérapie. Ce n'est pas une maladie. C'est un péché. Ils ont besoin de pardon, d'abandonner ce péché, comme nous avons abandonné certains péchés quand nous nous sommes convertis. Oui ou non? Certains d'entre nous, comme les Corinthiens, nous étions des adultères, c'est pas vrai? Des voleurs, oui ou non? Vous étiez des gens bien avant votre conversion? Vous n'étiez pas des gens bien? Eh bien, on va le lire. Mais je crois qu'il faut faire attention, parce qu'au nom de cette psychothérapie, au nom de cette guérison, on finit par leur faire croire qu'ils sont malades ou que c'est normal. Non. Si vous êtes homosexuel et que vous écoutez cette prédication, je vous en supplie, demandez à Dieu qu'il vous pardonne, et il vous pardonnera et vous serez délivré. Et on va le lire, parce que ce que je vous dis, ce n'est pas ma conviction, c'est la vérité. La Bible, on l'a lu dans Romains 1, 26, l'homosexualité c'est une passion infâme. C'est une passion infâme. Et ça détruit votre âme. Ça vous détruit. Mais il y a une bonne nouvelle. Dieu veut pardonner. Dieu veut guérir, accorder le pardon, la paix, la vie éternelle pour tous ceux qui se repentent. Les homosexuels, comme les adultères, comme les voleurs, ce que nous étions avant, tous. Et ne pensez pas un instant que mes propos sont des propos de jugement. Oui, je désapprouve l'homosexualité, mais je vous dis que Dieu, il veut vous pardonner, il veut vous bénir si vous vous repentez et si vous acceptez la prédication de la croix. Car juste après avoir dit que l'homosexualité est un péché et que les homosexuels n'hériteront pas le royaume de Dieu, regardez ce qu'il ajoute. 1 Corinthiens, chapitre 6, on ne l'a pas lu tout à l'heure, mais je l'ai fait volontairement, au verset 11. Voilà, et je veux vous dire que Dieu a une bonne nouvelle. Et si dans la Bible il y a des menaces, est-ce qu'il y a des menaces dans la Bible? Oui. Ben oui. Est-ce qu'il y a des promesses? Oui, il y a des promesses, il y a des menaces, il y a des condamnations, il y a des jugements, et il y a une très 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 bonne nouvelle. C'est que nous sommes tous des pécheurs, et que Jésus sur le bois de la croix est mort pour sauver tous les pécheurs. Et regardez de quoi était composée l'église de Corinthe. Parce que des fois, on se dit, qu'est-ce qu'ils étaient ces Corinthiens? C'était des laboureurs, c'était quoi? Mais regardez ce qu'ils étaient certains. 1 Corinthiens 6, 11. Et c'est là ce que vous étiez, pas tous, mais quelques-uns d'entre vous. Quoique moi, j'ai connu une église, je ne vous dis pas où, parce que je sais que mes prédications sont écoutées à cet endroit, où tous les hommes dont je me suis occupé avaient tous commis l'homosexualité. Tous. Ouais, tous. C'est vrai, Dieu m'entend, moi j'en étais malade. Mais vous avez été lavés, on peut dire, alléluia. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. C'est pas une bonne nouvelle ? C'est pas extraordinaire ? On voit bien que Dieu ne veut pas que les homosexuels aillent en enfer. Dieu veut que les homosexuels se repentent, qu'ils acceptent que le sang de Jésus est capable de les justifier, de les laver, comme on vient de le lire. Oui, dans l'église de Corinthe, il y avait toutes sortes de pécheurs corrompus à tous les niveaux, mais la prédication de la croix les a amenés à la victoire. Alors, soyons droits, soyons honnêtes devant Dieu, disons la vérité avec sérieux, avec compassion. Mes frères et sœurs, bien sûr que je parle d'une manière ferme, parce que sinon, si on ne le dit pas, mais qui va vous le dire ? Il faut que vous entendiez ces choses. Vous allez voir sur tous ces sites chrétiens qui favorisent l'homosexualité, ils vont pas vous dire ce que vous avez entendu ce matin, croyez-moi. Mais soyons droits, aimons tous les êtres humains. Dieu a tant aimé le monde. Mais n'oubliez pas que du temps de Noé, les hommes avaient choisi de corrompre leur voie. C'est écrit, lisez-le avec moi dans Genèse. C'est bien de le lire, dans Genèse au chapitre 6. Et vous savez que ça se passera pareil. C'est un choix qu'ils ont fait. C'est un choix. Genèse chapitre 6, verset 11. Vous savez, mes frères et sœurs, je ne sais pas ce que vous pensez. Est-ce qu'il fallait le dire, ça? Franchement, mes frères et sœurs, est-ce que c'est important? J'espère que vous comprenez l'importance. Genèse chapitre 6, verset 11. En sachant que Jésus a dit que ça serait pareil. Regardez, un verset juste. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue. Regardez bien la suite. Car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Ils ne se sont pas réveillés un matin corrompus. Ils ne se sont pas réveillés un matin, ah, je suis pervers. Ah, non, ils ont choisi petit à petit de se corrompre. C'est un choix, nous qu'on fait, d'aimer la vérité. Celui qui est de la vérité, il nous écoute. Celui qui n'est pas de la vérité, ne nous écoute pas. J'ai pas pris ce verset pour justifier ma prédication. Je n'ai pas besoin, je vous l'ai dit en introduction, de justifier. Je n'ai pas besoin de faire un débat. Je vous dis, mes frères et sœurs, que c'est ce qui va arriver. Toute chair se corrompra sur la terre. Et ne seront pris que ceux qui marcheront dans la sainteté, dans la droiture et dans la justice. Et nous devons supplier Dieu de sauver des hommes et des femmes, quel que soit leur péché, que ce soit des homosexuels, que ce soit des voleurs de pommes, j'en sais rien, que ce soit de simples pécheurs, on est tous des pécheurs. Mais je crois quand même qu'il faut être honnête et prier pour que Dieu me mette à cœur ces sujets. Parce que moi j'avais prévu autre chose, et hier en priant justement, je me suis dit, mais je sentais qu'il me fallait prêcher là-dessus. Mais c'est pas évident, comprenez-moi. C'est pas évident, mais je veux vraiment apporter la pensée de Dieu. Parce que je crois quand même que quelqu'un qui écoutera cette prédication par le biais d'Internet, qui est détruit à cause de ce péché, parce que, alors ça c'est une conviction que j'ai parce qu'elle est biblique, qu'un homosexuel ne vienne pas me dire qu'il est heureux, parce qu'il est déjà sous le jugement de Dieu. On l'a lu, écoutez, je veux pas, c'est pas une idée, mais il est déjà sous le jugement de Dieu et il le sait. Alors mes frères et sœurs, priez. Que si Dieu en met un sur votre chemin, est-ce que demain Dieu peut vous en mettre un au boulot voilà, ne le regardez pas de travers. Moi, c'est vrai que des fois, il y a des choses qui nous déplaisent plus que d'autres. Mais donnons-leur un évangile. Donnons-leur un évangile de Jean. Dieu veut les sauver. Dieu les aime, malgré, et bien sûr. Mais je ne veux plus justement tomber dans ces cabrioles-là de dire « Dieu aime le pécheur, il faut aimer le pécheur, on en reste là et plus rien ne se fait. » Mes frères et sœurs, soyons droits devant Dieu et lisez de grâce, lisez la Bible. Si vous ne la lisez pas, vous ne tiendrez pas. C'est écrit. Celui qui ne veille pas, il ne sera pas prêt. Je résume des textes bibliques. Si vous veillez, si vous priez, vous aurez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront sur la surface de la terre. Parce que si on n'en a pas été de cette catégorie-là, c'est que Dieu nous a gardés. On n'aurait pas pu se faire piéger. Vous savez, franchement, vous savez, si on est là ce matin, c'est que Dieu nous a protégés, que Dieu nous a gardés, qu'il nous a bénis. On n'a pas été meilleur. Moi, je ne suis pas tombé dans ce truc. Que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Mes frères et sœurs, fuyez la colère. Parce que la colère, elle vient sur la terre. Et qui pourra subsister? Eh bien, subsisteront que ceux qui seront passés sous le sang du Seigneur Jésus et qui resteront fidèles à l'œuvre du calvaire.